Au grand regret de son excellence.
Vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, dit l'ambassadeur de Mars, qu'un grand nombre d'événements se sont produits depuis notre dernière réunion. Également nombreux sont les sujets à débattre et les décisions à prendre. Je suis d'autant plus désolé de l'absence de notre distingué collègue de Mercure.
Cette dernière affirmation n'était pas absolument exacte. Le docteur Bose n'était pas particulièrement désolé de l'absence de son excellence, l'ambassadeur Hermien. Il aurait été plus sincère de se déclarer préoccupé. Son flair diplomatique lui disait qu'il se préparait quelque chose, et malgré la qualité de ses sources d'information, il n'avait pu recueillir la moindre indication à ce sujet. La lettre d'excuse de l'ambassadeur avait été courtoise, mais parfaitement floue. Son Excellence regrettait qu'une affaire urgente à laquelle il ne pouvait se dérober l'empêchât d'assister à la réunion, que ce fût en personne ou par vidéo interposée. Le docteur Bose imaginait mal qu'une affaire pût être plus urgente ou plus importante que Rama.
Deux de nos membres ont des communications à nous présenter. Je donnerai donc, si vous permettez, la parole au professeur Davidson.
Un frisson d'impatience parcourut les autres savants de la commission. La plupart d'entre eux avaient le sentiment que l'astronome, dont le point de vue purement cosmique était bien connu, n'était pas l'homme qui convenait à la présidence du Conseil consultatif de l'espace. Il donnait parfois l'impression que les activités de la vie intelligente étaient une tare malheureuse du majestueux univers des étoiles et des galaxies, et que c'était un manque d'éducation que d'y prêter trop d'attention. Cela ne lui attirait pas la tendresse d'exobiologistes qui, comme le docteur Pereira, adoptaient le point de vue exactement inverse. Pour eux, la seule fonction de l'univers était la production d'intelligence, et cela leur permettait de se gausser des phénomènes purement astronomiques. « Matière stérile », répétait-il volontiers.
« Monsieur l'ambassadeur, » dit le savant en guise d'introduction, « j'ai analysé l'étrange comportement de Rama au cours de ces derniers jours, et j'aimerais vous présenter mes conclusions. Certaines d'entre elles sont assez effarantes. »
La surprise qui se peignit sur le visage du docteur Pereira céda à la suffisance. Il approuvait inconditionnellement tout ce qui effarait le professeur Davidson.
« Tout d'abord, la remarquable suite d'événements produits lors du survol de l'hémisphère sud par le jeune lieutenant. Bien que spectaculaire, les décharges électriques ne sont pas en elles-mêmes importantes. Il est facile de montrer qu'elles ne résultaient pas d'énergie très considérable, mais elles coïncidaient avec une variation de la vitesse de rotation de Rama et avec un changement d'assiette, c'est-à-dire de son orientation dans l'espace. Ceci, en revanche, implique une dépense considérable d'énergie. Les décharges qui ont failli coûter la vie à Monsieur Pack n'en étaient que l'épiphénomène, peut-être une nuisance que devaient corriger les paratonnerres du pôle Sud. J'en tire deux conclusions. Lorsqu'un engin spatial, car c'est ainsi que nous devons considérer Rama malgré sa taille, opère un changement d'assiette, cela signifie généralement qu'il s'apprête à changer d'orbite. Nous devons donc prendre en considération l'opinion de ceux qui pensent que Rama se prépare à devenir un nouveau satellite de notre Soleil au lieu de replonger vers les étoiles. Si tel est le cas, l'Endeavour doit bien évidemment s'apprêter à prendre le large, si cela se dit des vaisseaux spatiaux, d'un moment à l'autre. Il court de graves dangers tant qu'il est physiquement solidaire de Rama. J'imagine que le commandant Norton est déjà conscient de cette éventualité, mais je pense qu'un avertissement supplémentaire ne serait pas inutile.
Merci, professeur Davidson. Oui, docteur Salomon?
J'aimerais faire un commentaire à ce sujet, dit l'historien des sciences. Rama semble avoir fait varier sa giration sans l'aide de fusée ou d'un quelconque dispositif de poussée. Cela, à mon sens, ne laisse que deux possibilités. La première, c'est qu'il est équipé de gyroscopes internes ou d'un système équivalent. Il faudrait qu'il soit énorme. Où se trouve-t-il? La seconde possibilité qui bouleverse toutes nos connaissances en physique fait appel à tout autre chose que la propulsion par réaction. Ce serait l'espace moteur qui rend le professeur Davidson si sceptique. Dans ce cas, Rama est capable de n'importe quoi. Rien ne peut nous permettre de prévoir son comportement, même sur un plan tout bêtement physique.
Les diplomates furent quelque peu déconcertés par ce dialogue, et l'astronome ne voulut pas s'avancer plus. À chaque jour suffit sa peine.
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je m'en tiendrai aux lois de la physique tant que je ne serai pas contraint de les abandonner. Si nous n'avons pas trouvé de gyroscope dans Rama, c'est que nous avons mal regardé, ou pas au bon endroit.
L'ambassadeur de Mars vit que le docteur Pereira s'impatientait. En temps normal, l'exobiologiste était aussi heureux que les autres de se livrer aux envolées spéculatives. Mais justement, pour la première fois, il était en possession de faits bien concrets. Du jour au lendemain, sa science, qui avait longtemps souffert de malnutrition, se retrouvait prospère.
« Parfait. Si le sujet n'appelle plus de commentaires, je crois savoir que le docteur Pereira a une communication importante à nous faire. »«
Merci, monsieur l'ambassadeur. Comme vous avez tous pu le voir, nous avons fini par obtenir un échantillon d'une forme de vie raméenne et nous avons pu en observer d'autres de près. Le commandant Ernst, médecin-chef de l'Endeavour, nous a transmis un rapport détaillé sur l'araignée qu'elle a disséquée. J'ajoute dès maintenant que ce qui en ressort est stupéfiant et que, en d'autres circonstances, j'aurais refusé d'y croire. L'araignée est nettement organique, bien que sa chimie diffère à bien des égards de la nôtre, notamment par l'abondance des métaux légers. J'hésite cependant à lui donner le nom d'animal pour plusieurs raisons essentielles. En premier lieu, elle semble n'avoir ni bouche, ni estomac, ni appareil digestif, bref, aucun moyen d'ingérer de la nourriture. Tout comme elle n'a ni appareil respiratoire, ni sang, ni appareil reproducteur. On peut donc se demander ce qui lui reste. Eh bien, une simple musculature qui contrôle ses trois pattes et appendices flagellés ou antennes. Il reste aussi un cerveau joliment complexe et presque entièrement consacré à la remarquable vision trioculaire dont est dotée la créature. Mais le corps est constitué à 80% d'un nid d'abeilles de grosses cellules qui, aux grandes dames du docteur Ernst, se révélèrent être des piles lorsqu'elle commença la dissection. Ce choc lui aurait été évité si elle les avait reconnues à temps, car c'est une des réalités raméennes qui a son répondant sur Terre, quoique chez certains animaux marins seulement. L'araignée est donc principalement une batterie, dont celle des poissons torpilles donne une bonne idée, sauf qu'ici, ce n'est pas un moyen de défense, mais la source d'énergie de la créature. Manger, respirer, toutes ces fonctions primitives ne lui sont pas nécessaires. Et notons, à ce propos, qu'elle est donc parfaitement adaptée à la vie dans le vide. Nous sommes ainsi en présence d'une créature qui se réduit en tout et pour tout à un œil mobile. Elle est dépourvue d'organes manipulateurs, les flagelles sont beaucoup trop faibles pour cela. Si l'on m'en avait fait la description, j'aurais dit que c'était simplement un instrument de reconnaissance. Son comportement correspond sans aucun doute à cette définition. Deux verbes suffisent à résumer son action. Elle va voir. C'est tout ce qu'elle peut faire. Mais les autres animaux sont différents. Le crabe, l'étoile de mer, les requins, faute de noms mieux appropriés, sont visiblement capables d'une action sur leur environnement et semblent avoir des fonctions spécialisées. Je suppose qu'ils tirent également leur énergie de l'électricité, puisque comme l'araignée, ils n'ont apparemment pas de bouche. Je suis sûr que vous vous rendez compte de l'ampleur du problème biologique posé. Ces créatures sont-elles issues d'une évolution naturelle? Je ne le pense pas. Elles semblent avoir été conçues comme des machines pour des tâches spécifiques. Si j'avais à les décrire, je dirais que ce sont des robots biologiques, quelque chose dont on n'a pas l'équivalent sur Terre. Si Rama est un vaisseau spatial, ils font peut-être partie de son équipage. Quant à savoir comment ils ont été engendrés ou créés, cela me dépasse. Mais j'ai l'intuition que la réponse se trouve quelque part dans New York. Si le commandant Norton et ses hommes peuvent attendre assez longtemps, ils risquent d'être mis en présence de créatures toujours plus sophistiquées et au comportement imprévisible. Au long de cette ligne de complexité croissante, ils pourraient rencontrer les Raméens eux-mêmes, les véritables créateurs de ce monde. Et à ce moment-là, messieurs, il n'y aura plus place pour le doute.